Vous écoutez, on lit pour vous.
Manœuvrer pour alléger sa facture de CHSLD. Une chronique de Daniel Germain, parue le 30 mai 2024 dans Le Droit d'Ottawa-Gatineau. Petite question à 100 $. Si ma mère m'ouvre un CELI, un CHSLD peut-il m'obliger à puiser dans le compte libre d'impôt pour les soins dont elle aurait besoin? Voyez mes précautions. En plantant la question en partant, je cours moins de risques de m'égarer en chemin. Elle m'a été lancée telle une bouée par message texte, donc par une amie. Sa mère vit actuellement dans une résidence pour personnes âgées, RPA, relativement luxueuse, le genre de complexe flambant neuf où on facture à gros prix le moindre changement d'ampoule. L'octogénaire requiert des soins de plus en plus lourds. Si ce n'est pas encore le cas, sa situation nécessitera bientôt un transfert vers un centre d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD. Voilà ce que je comprends. Ce n'est pas gagné, cela dit. Entre 3 et 4 000 personnes attendent une place en CHSLD, et à la vitesse qu'on construit de nouveaux centres, des candidats manqueront de temps pour s'y rendre. Avec un peu de chance. Une place peut toujours s'ouvrir quelque part, mais je doute que la dame dont on parle irait n'importe où. La question n'est pas innocente, bien qu'elle traduit une méconnaissance du système. Il n'y a là rien de gênant, personne ne s'y intéresse vraiment avant d'être concerné. J'ai dû me rafraîchir la mémoire, car j'ai déjà tâté le sujet par le passé sans être un expert. En CHSLD, les coûts d'hébergement comprennent tous les services, au contraire d'une RPA où on doit souvent payer un loyer d'un côté et des services à forfait ou à la carte, incluant certains soins de santé, de l'autre. Combien ça coûte? Cette année, c'est 2 140 $ par mois pour une chambre individuelle, note qui descend à 1 790 $ si la pièce est partagée avec un autre résident et à 1 333 $ pour endurer deux colocs. Peu importe la quantité de soins requis, c'est le même prix, tout inclus, pour tout le monde. À ne pas confondre avec un Club Med où le manger est apparemment meilleur. C'est la part assumée par le public, l'essentiel de la facture, en fait, qui variera. Voilà, entre autres, pourquoi c'est moins cher que dans une RPA privée. La question n'a rien d'innocent, disais-je, puisque les montants mentionnés représentent les contributions maximales. Ce qui veut dire que des résidents paieront moins. Les allègements étant calculés en fonction de plusieurs critères, à commencer par les revenus et la valeur des avoirs, surtout liquides. Tant qu'on a assez d'argent à la banque, ce qui veut dire un peu, on n'a pas droit à des réductions. Est-ce que le fait d'ouvrir et de remplir 95 000 $ un CELI au nom de sa fille permettrait à cette dame de diminuer le coût de son loyer en CHSLD? C'est un peu ça, la vraie question. C'est une stratégie pour le moins problématique, j'y reviendrai plus loin. Dans le cas de la mère de cet ami, ayant une idée de sa situation, ça n'aurait aucune incidence. Elle repose sur un REER et un CELI bien garni, en plus de toucher une rente d'un régime de retraite, plus ses prestations publiques RRQ et PSV. Rappelons qu'encore aujourd'hui, elle peut s'offrir une place dans une RPA qui doit lui coûter le double de la contribution maximale exigée en CHSLD. Avec des avoirs amputés de 95 000 $, elle paierait toujours le tarif le plus élevé. Si l'idée de remplir le CELI de son enfant unique avait pour but de réduire la facture du CHSLD de cet octogénaire, je doute qu'elle ait pu germer dans la tête de sa fille, rebutée par l'argent, incapable de manigances financières. Elle est anticapitaliste sur les bords, pour tout vous dire, et c'est pourquoi je trouve ironique qu'elle me pose une question à 100 $. D'ailleurs, s'il est une chose qui, pour elle, rend toute cette affaire inconfortable, à part la déchéance de sa mère, c'est sans doute l'éventualité de devoir faire fructifier 95 000 $ dans un compte libre d'impôts et d'interagir avec un conseiller de la caisse. Donc, c'est probablement le flash de la mère, plus rusée que sa progéniture, quand de l'argent est en jeu. Stratégie douteuse. Pourtant, ce genre d'illumination surgit plus fréquemment de la tête des enfants. Quand leurs vieux parents arrivent au seuil du CHSLD, c'est souvent eux qui proposent le transfert des actifs dans le but de ramener à zéro les coûts de l'hébergement quand ils ne font pas carrément pression. Ils sont les premiers intéressés, car cette stratégie vise à préserver le patrimoine au détriment du public, qui paiera la totalité de la facture du CHSLD et parfois du ou des parents qui se retrouvent avec un accès réduit à leur argent, accaparé par une descendance rapace. Ce n'est jamais très joli. Mais il y a de ces manifestations de l'avidité qui confinent à l'obscénité. Ce n'est pas des blagues. Mais bon, il y a des limites à procéder à de telles manœuvres. Les avoirs qui auraient été cédés jusqu'à 2 ans avant l'entrée en CHSLD seront comptabilisés comme s'ils appartenaient toujours à leur propriétaire original au moment d'établir le tarif. Ça complique l'affaire. Québec a prévu des exclusions. Certains actifs sont évacués du calcul de la contribution pour une place en CHSLD. Une résidence principale, dont la valeur ne dépasse pas 323 000 $, ne compte pas, tout comme une voiture de 10 000 $ et moins. Les vendre peut être désavantageux, car un résident de CHSLD qui profite d'une facture allégée risque de voir sa contribution grimper s'il détient plus de 2500 $ en liquide, seul montant exclu. Québec a mis en ligne un outil qui permet d'estimer la contribution si ça vous intéresse. Après avoir réalisé quelques simulations, je vous confirme qu'il faut être pauvre pour avoir droit à des réductions. C'était « Manœuvrer pour alléger sa facture de CHSLD », une chronique de Daniel Germain, parue le 30 mai 2024 dans « Le droit d'Ottawa-Gatineau ».
Restez motivés quand les collègues sont en congé. Un texte de Maude Goyer, paru le 30 juillet 2024 dans « La presse ». Le bureau est vide. Les réunions en virtuel se font rares. L'agenda est dégagé. Le téléphone ne sonne pas. Tout le monde est parti en vacances. Et votre motivation a, elle aussi, pris congé. Comment rester investi et engagé quand tout le monde est parti? Les Québécois aiment prendre leurs vacances en été. En 2024, 68 % d'entre eux avaient l'intention de partir en vacances selon un sondage réalisé par CAA Québec au printemps. Les collègues qui restent derrière remarquent des espaces de bureau vides, la diminution des courriels et des appels, les projets qui tournent au ralenti et moins de contacts humains. Et même si les travailleurs ont appris à apprivoiser la solitude, entre autres apportée par le télétravail, certains trouvent cela plus difficile de rester motivé alors que tout le monde semble être en vacances. C'est le cas de Myriam Habib, infographiste dans le domaine de la mode. La Lavalloise de 35 ans travaille 3 jours par semaine au bureau et ces jours-ci, les locaux sont vides. J'ai sursauté en entendant une collègue arriver l'autre matin, raconte-t-elle en riant. On pourrait entendre une mouche voler. Je ne m'ennuie pas, mais disons que lorsque 16 heures arrivent, je ne traîne pas non plus. C'est ennuyeux au bureau. À noter que, selon le portrait de l'Institut de la statistique du Québec, fait en 2022, 35 % de la population active à adopter le mode hybride en télétravail. À Montréal, cela grimpe à 45 %. Il existe deux types de motivation, indique Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université TELUC. La motivation intrinsèque est liée à la reconnaissance, sentir qu'on a une mission, qu'on est aligné avec l'objectif de notre travail. Et il y a la motivation extrinsèque liée aux avantages en lien avec notre travail, comme le salaire. Bien se connaître. Si notre motivation est majoritairement nourrie par la présence des autres, cela entre dans la catégorie extrinsèque, explique Mme Tremblay. Et on risque de trouver plus difficile le vide laissé au bureau. Bien se connaître est une clé pour traverser ce moment avec sérénité et résilience, avance Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, CRHA. Si on sait qu'on aura moins d'interactions avec les collègues, dit-elle, on peut voir cela comme une opportunité. On sera moins sollicité. On sera moins occupé. On peut, par exemple, en profiter pour préparer la rentrée, prendre du recul, penser à l'avenir, faire du classement, entrer en rédaction ou en lecture de dossiers. Pour Diane Gabrielle Tremblay, spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail, mieux structurer son agenda par bloc ou par objectif quotidien peut aider à rendre ses journées productives et satisfaisantes. On peut décider d'attaquer des tâches à long terme ou qui nécessitent une concentration en continu, sans interruption. On peut voir cela comme un avantage. Réflexion et bilan. La discipline est importante. François Courcy, professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke, U2S, propose de se fixer une priorité par jour afin de sentir qu'on avance. La tranquillité relative au bureau est également une occasion de faire de l'introspection, essentielle selon lui. Faire le bilan et se poser la question, par exemple, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je vais accomplir cette année? Et dans 5 ans? Ce n'est pas un exercice futile. Il croit aussi qu'il faut célébrer nos bons coups, même quand on est seul. Je trouve que les Québécois, en général, ne prennent pas assez de temps pour célébrer leurs bons coups, dit-il. Il faut prendre conscience de tout ce qu'on a accompli dans la dernière année et se permettre de se récompenser pour ça. Pour y arriver, faire le bilan et réfléchir à ce qu'on peut améliorer est une bonne piste, avance M. Courcy. Élargir son réseau. Et si les interactions sociales avec les collègues nous manquent, on peut en profiter pour reprendre contact avec d'anciens camarades qu'on voit rarement, ou encore élargir son réseau en rencontrant des gens qui ont plus d'expérience et qu'on aurait envie de connaître. Discuter et brasser des idées, c'est très riche, rappelle François Courcy. C'était « Rester motivé quand les collègues sont en congé », un texte de Maude Goyer, paru le 30 juillet 2024 dans La Presse.
Dure période pour la radio commerciale. Un texte d'Étienne Paris paru le 6 août 2024 dans Le Devoir. Le marché francophone de la radio à Montréal a perdu le quart de ses revenus en 5 ans. Plusieurs annonceurs ont quitté le bateau avec la pandémie et n'ont pas repris l'habitude depuis de se payer de l'espace publicitaire en ondes, du moins pas aussi souvent qu'avant. Cette nouvelle réalité se fait aussi sentir dans le reste du Québec, mais dans une moindre mesure. La tendance est sans équivoque. Au vu des plus récents chiffres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, les stations commerciales du marché francophone de Montréal ont subi une baisse de 21 % de leurs revenus lors de la première année de la pandémie et la situation n'est jamais revenue à la normale depuis. Même que les pertes ont continué de se creuser. Durant l'exercice financier 2022-2023, le premier à porter sur une période entièrement post-pandémique, la radio francophone de la métropole a encore connu une baisse de revenus légère, moins 0,5% par rapport à l'année précédente. Depuis la pandémie, le contexte financier fait que les annonceurs recherchent plus un retour sur leur investissement à court terme. C'est ce que permettent les médias numériques comme Facebook, qui nous incitent à acheter rapidement. Annoncer dans les médias traditionnels comme la télé ou la radio, c'est plutôt un investissement qui paie à long terme. C'est une manière pour les annonceurs de bâtir leur notoriété et leur réputation auprès du public, explique Anne-Sophie Collins, directrice média de l'agence Dialecta. Le travail de Mme Collins consiste essentiellement à conseiller les annonceurs dans leur stratégie publicitaire. Elle est assez optimiste par rapport à l'avenir des médias traditionnels et a bon espoir que les annonceurs qui les ont délaissés retourneront vers eux dans les prochaines années. Mais pour l'heure, force est d'admettre que le contexte est difficile et ce, partout au Canada. Les radios anglophones du pays ont perdu 26 % de leurs revenus en 5 ans. La radio francophone fait mieux, mais à peine. Le marché francophone de Montréal est celui qui pâtit le plus de l'exode des annonceurs. Depuis 2022, ses revenus se maintiennent sous la barre des 80 millions de dollars, une chute de près de 24 % par rapport à l'année précédant la pandémie. Les pertes s'élèvent à 20 % pour le marché francophone d'Ottawa-Gatineau, à 18 % dans la région de Québec et à 14 % ailleurs dans la province. Si les marchés régionaux sont un peu moins touchés que celui de Montréal, c'est que leurs revenus proviennent davantage de la vente de publicité locale. Depuis 2022, les annonceurs locaux tendent à revenir vers la radio commerciale, même si l'on reste encore loin des niveaux pré-pandémiques. A contrario, les gros annonceurs nationaux désinvestissent les ondes. La vente de publicité locale a augmenté d'un peu moins de 3 % dans les différents marchés francophones au pays dans la dernière année, alors que les revenus tirés des grandes campagnes publicitaires nationales ont diminué de 9 % durant la même période. Les médias numériques permettent aux annonceurs nationaux d'avoir une plus grande portée à moindre coût. Ce n'est pas nécessairement plus avantageux à la fin, mais les coûts d'entrée pour faire passer un message publicitaire sont moindres que pour les médias traditionnels, avance Anne-Sophie Collins pour expliquer la désertion des grands annonceurs nationaux. Quel avenir pour la radio? Bell Media, propriétaire des réseaux Rouge et Énergie, n'a pas voulu commenter les derniers chiffres du CRTC lundi. Cogeco Média, qui possède notamment le 98,5 FM à Montréal et le FM 93 à Québec, n'a pas donné suite à nos questions. Ce n'est un secret pour personne que les deux plus grosses pointures de l'industrie de la radio au Québec connaissent des difficultés à l'heure actuelle. En février 2024, Bell a annoncé lancer le processus pour se départir de 45 de ses 103 antennes au pays, dont 7 au Québec. Le groupe Arsenal compte acquérir ses stations situées en Montérégie, au centre du Québec et dans le Bas-Saint-Laurent. Quant à Cogeco, ses dirigeants ont ouvertement évoqué de possibles fermetures devant le CRTC en novembre 2023 en plaidant pour une aide publique au secteur de la radio. Pour Sébastien Charlton, chercheur au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, le milieu de la radio pourrait être le théâtre d'importantes transactions dans les prochaines années ou les prochains mois. La baisse des profits rend la radio moins attrayante pour les gros joueurs qui sont cotés en bourse. Ça devient difficile pour eux de justifier devant leurs actionnaires que leurs marges de profit sont toujours en baisse. ce ne serait pas surprenant que des stations de radio soient vendues à des acteurs privés plus petits. Un peu comme ce qu'on a vu récemment avec Bell, qui a vendu 7 stations à Arsenal, souligne-t-il. C'était « Dure période pour la radio commerciale », un texte d'Étienne Paris paru le 6 août 2024 dans Le Devoir.
L'homme qui a façonné le paysage de la Chine, un texte de Louise Leduc, paru le 24 juillet 2024 dans La Presse. C'est l'endroit, entre tous, à Montréal, où voir le jour décliner. Un grand angle sur le fleuve, un horizon sans fin au coucher du soleil. Mais le parc René Lévesque, tout comme la piste cyclable qui longe tout le bord de l'eau à la Chine, n'est pas né comme par enchantement. En ces beaux jours, où bien des gens feront leur petit tour à vélo dans cet arrondissement, petite page d'histoire sur Guy Descaries, l'homme qui a tant façonné le paysage et transformé le quotidien des générations qui ont suivi. Le bord de l'eau doit être accessible à tous les citoyens. Nous ferons du bord de l'eau une promenade. C'est ce qui était écrit en toutes lettres dans le programme électoral de Guy Descaries, devenu maire de la Chine en 1973 et mort en fonction en 1991. Le lac Saint-Louis constitue, pour notre ville, une richesse inestimable qui a été à l'origine de sa fondation, disait aussi le programme. Tout son développement doit être fait en fonction de cette richesse. Mon père voyait cela comme un legs pour les autres générations, explique en entrevue son fils, Benoît Descaries. À l'époque, fait-il observer, peu d'attention était portée au patrimoine et aux rives des plans d'eau. Son père, lui, accordait déjà beaucoup de valeur à tout cela. Pharmacien de métier, urbaniste dans l'âme, animateur d'une émission d'affaires publiques pendant quelques années, Guy Descaries était un homme pluriel, un homme d'action, résume son fils. Il était beaucoup sur le terrain. Le soir, quand j'étais jeune adolescent, il nous emmenait, ma sœur et moi, faire le tour des rues de la Chine pour dresser la liste des choses qui devaient être réparées, face à des vents contraires. À la mort de Guy Descaries, prématurément, à l'âge de 59 ans, l'article de La Presse qui lui rendait hommage rappelait qu'à son entrée en poste, les vieux quartiers de la Chine offraient une image de désolation et d'abandon. Son bord de l'eau était envahi par des bars et des tripots. Au risque d'y laisser sa peau, Guy Descaries entreprit de rebâtir la ville de fond en comble. Benoît Descaries raconte que, de fait, son père a dû faire face à bien des vents contraires, y compris du conseil municipal très réfractaire à ses idées. L'une des premières tâches de Guy Descaries, évoque son fils, a été de s'attaquer au petit canal de la Chine dont les pierres des murs tombaient à l'eau. Il a aussi donné l'aval à quelques expropriations autour du phare emblématique de la Chine afin de créer un parc linéaire qui donnerait un accès totalement public à tout le bord de l'eau. Mais les expropriations ont touché peu de maisons. Mon père voulait conserver l'aspect village de la Chine, se souvient son fils Benoît Descaries. Le parc René Lévesque. Sur l'ancienne jetée, qui était alors un dépotoir maritime où s'accumulaient les déchets de dragage, il a fait construire le grand parc René Lévesque, cette presqu'île aujourd'hui traversée par un arboretum, ponctuée de sculptures et entourée d'une piste cyclable. C'était une autre époque, comme on le constate encore une fois en lisant l'article de La Presse à sa mort. Pour transformer la jetée en un îlot de verdure, Guy Descaries fit travailler des dizaines de prisonniers pendant tout un été. Son fils a entendu cette histoire de prisonniers. Une légende ou pas? Mais il raconte, tout comme André Robichaud, ex-président de la Société d'histoire de la Chine,
que le travail a surtout été abattu par des chômeurs rendus au bout de leurs prestations. M. Robichaud rappelle aussi que M. Descaries est entré en poste juste avant les Jeux olympiques, alors que le cyclisme commençait tout juste à être populaire. Avant, rouler à vélo, c'était une activité d'enfant. Bientôt, des pistes cyclables apparaîtront et deviendront très fréquentées, entre autres, 40 ans plus tard, par Ritia Caroline Qi et sa famille, qui habitent à la Chine. Le bord de l'eau cimente le quartier. On y fait du vélo, du jogging, on y promène son chien, on y fait de nouvelles rencontres, explique-t-elle, évoquant par exemple cette conversation impromptue avec une charmante vieille dame promenant son Golden Retriever qui, un petit matin tristounet, nous a fait rire aux éclats avec ses anecdotes désopilantes. François Guillotte, qui habite lui aussi à la Chine, constate que les citoyens sont chanceux d'avoir eu un maire qui, dans le passé, a eu de la vision et a priorisé le bien-être de la communauté. On dit souvent qu'on ne sent pas beaucoup que Montréal est une île. À la Chine, au contraire, on a une grande proximité avec l'eau. Gardien des vieilles pierres aussi. On doit aussi à Guy Descaries la préservation de quelques-uns des plus beaux édifices patrimoniaux de la Chine, relève André Robichaud, qui a longtemps été à la Société d'histoire de la Chine. Il rappelle que le conseil municipal avait décidé en 1974 de livrer l'ancienne brasserie Dawes au pic des démolisseurs. Benoît Descaries souligne que le conseil municipal d'alors a refusé que la ville emprunte pour la remettre en état. Pour préserver l'édifice datant de 1861 et fait de Pierre Deschamps, Guy Descaries l'a fait restaurer quand même par des employés municipaux. Ça, c'était un peu dictatorial, dit en riant M. Descaries. Mais la vieille brasserie était sauvée. Le défunt maire a aussi fait rénover la maison Lebert-Lemoine, cette maison de pierre servant de poste de traite et d'entrepôt de marchandises pour équiper les coureurs des bois. Ritia Caroline Qi dit toute sa reconnaissance envers Guy Descaries et d'autres, sans doute, qui ont aménagé si poétiquement la Chine. À nous maintenant d'en prendre soin. C'était l'homme qui a façonné le paysage de la Chine, un texte de Louise Leduc, paru le 24 juillet 2024 dans la presse.